Alors, ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, etc. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. Donc vous voyez, c'est l'idée que les chrétiens, d'une certaine manière, sont pas citoyens du monde au sens stoïcien. Parce qu'à l'époque, la grande philosophie de l'époque, c'est le stoïcisme. C'est-à-dire, on est citoyen du monde. Donc, les stoïciens abolissent la notion de patrie. Et puis, d'un autre côté, il y a les gens qui sont attachés à leur ethnie et qui abolissent l'idée d'universalité du genre humain. Et bien, les chrétiens, d'une certaine manière, sont l'un et l'autre, mais à deux plans différents. C'est-à-dire qu'ils prennent ils sont véritablement des citoyens, ils se conforment aux usages locaux, ils s'acquittent de leurs devoirs de citoyens, y compris le service militaire, et ils en supportent toutes les charges. Donc ils sont vraiment citoyens d'une nation. Et en même temps, avec comme hypothèque le fait qu'ils appartiennent aussi à une cité, mais cette fois-ci la cité céleste, c'est-à-dire l'Église. Donc, autrement dit, l'État ne pourra pas leur demander tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a des charges qu'ils refuseront de faire. Et en particulier, de rendre des honneurs divins aux empereurs ou de pratiquer un certain nombre de choses qui vont être montrées après. Donc, autrement dit, voilà, toute terre étrangère leur est une patrie, parce qu'un chrétien, finalement, peut être chrétien partout. Et toute patrie, une terre étrangère, parce qu'ils savent que, de toute manière, il y a une vie au-delà. Et que c'est juste une sorte de sas, la patrie dans laquelle on vit. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Vous voyez, la manière paradoxale de la république spirituelle, c'est qu'à l'époque où on expose les enfants dont on ne veut pas, les chrétiens ne le font pas. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. On passerait les détails sur les mœurs romaines, grecques. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Donc ils sont, on peut dire, il y a des lois positives qu'ils respectent, mais eux, ils vivent selon l'esprit de la loi naturelle qui inspire les lois positives justes. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne, on les tue, et par là, ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout, ils surabondent en toutes choses. On les méprise, et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils sont justifiés. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. Donc vous avez exactement le type d'antinomie que vous retrouvez dans saint Paul. Saint Paul aux Corinthiens, il reprend le même type d'antinomie. Mais alors évidemment, il y a le procédé rhétorique, mais au-delà du procédé rhétorique, il y a quand même une vérité qui est dite là. Donc, ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. On vient de le voir avec la lettre de Trajan. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. Et c'est certainement ce qui va beaucoup marquer les contemporains, de voir la constance par laquelle les chrétiens supportent les persécutions. Les juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par les grecs, et ceux qui les détestent ne sauraient dire la cause de leur haine.
C'est la haine déjà.
C'est très juste. Ceux qui les détestent ne sauraient dire la cause de leur haine. C'est l'idée dont on persécute le nomen Christianus. Et vous avez vu Pline qui se pose la question de savoir si on doit les châtier alors que on n'a pas investigué pour les soi-disant crimes qu'ils auraient commis. Donc et puis que lui-même ayant fait une enquête, il s'aperçoit que leurs habitudes sont finalement des habitudes très, enfin, dans lesquelles ils voient rien de répréhensible. On a l'impression, en écoutant Pline, qu'on entend Pilate devant Jésus en disant « mais qu'est-ce qu'il a fait de mal ?» quoi. Et finalement, Trajan est bien embêté, mais la modération par laquelle il encourage Pline à continuer sa charge, bah, c'est de dire « on ne voit pas très bien ce qu'ils ont fait de mal, à part de ne pas sacrifier aux dieux ». Et alors, la suite est intéressante. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Ça, c'est quand même très, très fort comme phrase, hein. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Ben, l'âme, c'est ce qui fait tenir les membres entre eux, hein. C'est ça la grande idée. L'âme, c'est la chose invisible qui fait tenir ensemble ce qui autrement serait disjoint, hein, dissiecta membra, hein. Et l'âme, on ne la voit pas. Voyez, les chrétiens ne se distinguent en rien des païens extérieurement, mais en fait, ce qui fait qu'ils sont l'âme du corps, c'est précisément qu'ils observent une loi plus profonde que la loi des lois positives de l'État. Et on retrouve à travers cette affirmation un petit peu ce qu'Oripide disait d'Antigone, hein, en fait, à partir de cette idée que la loi naturelle l'emporte sur les lois positives et qu'elles sont qu'en suivant la loi naturelle, finalement, quitte à s'opposer à la loi positive, on est meilleur serviteur de la communauté, de la société, que en n'y obéissant pas. Alors voilà ce que dit la suite. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'est pas du corps, comme les chrétiens habitent dans le monde et ne sont pas du monde. Ah ouais, ça c'est johannique. Invisible, l'âme est retenue prisonnière dans un corps visible. Ainsi les chrétiens, on voit bien qu'ils sont dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. Vous voyez, c'est le culte qui est célébré dans l'intimité du cœur, hein, dans ce sanctuaire intérieur dont parle saint Paul, qui est l'âme. Bon, après l'opposition classique de la chair et de l'âme que vous trouvez chez saint Paul, voilà encore toute une série d'antinomies. Alors, au point 7, ce qui est intéressant, l'âme est enfermée dans le corps. C'est elle pourtant qui maintient le corps. Les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde. Ce sont pourtant eux qui maintiennent le monde. Immortelle, l'âme habite une tente mortelle. Ainsi, les chrétiens campent dans le corruptible en attendant l'incorruptibilité céleste. L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif. Persécutés, les chrétiens de jour en jour se multiplient toujours plus. Si noble est le poste que Dieu leur a assigné qu'il ne leur ait pas permis de déserter. Oui, c'est très beau ça. Hein. C'est-à-dire, et ça c'est quand même très intéressant parce que c'est une question très actuelle. On pourrait se dire, puisque tout le monde nous embête, eh ben, on fait nos bagages et puis on va créer notre petite communauté république chrétienne ailleurs. Voilà. Et on abandonne la tension vers l'universalité depuis le début dans les évangiles. Donc on pourrait se dire, on se rétracte dans notre fromage de Hollande, hein, comme disait l'autre. Eh bien non, déjà à cette période, l'auteur dit, si noble est le poste que Dieu leur a signé, c'est-à-dire d'être en somme ceux qui vivifient toute une société, eh bien, qu'il ne leur ait pas permis de déserter. Donc, ça éclaire pas mal, je trouve, la relation des chrétiens avec le monde et avec les sociétés. Autrement dit, on ne divinise pas les sociétés. On sait très bien qu'elles sont finalement faillibles, mais on cherche à servir les gens qui en font partie à partir de la mise en œuvre de la révélation reçue. Et justement, c'est le point suivant. Donc, d'où vient cette doctrine ? Alors, d'où vient-elle ? Comme je l'ai dit plus haut, leur tradition n'a pas une origine terrestre. Ce qu'ils professent, conserver avec tant de soin, n'est pas l'invention d'un mortel, ni ce qui est confié à leur foi une dispensation de mystère humain. Mais c'est en vérité le Tout-Puissant lui-même, le Créateur de toutes choses, l'invisible Dieu lui-même, qui, l'envoyant du haut des cieux, a établi chez les hommes la vérité, le Verbe saint et incompréhensible, et l'a affirmé dans leur cœur. Non, comme certains pourraient l'imaginer, qu'il ait envoyé aux hommes quelques subordonnés, anges ou archontes, un des esprits chargés des affaires terrestres, ou de ceux à qui est confié le gouvernement du ciel, mais bien l'artisan, l'organisateur de l'univers. C'est par lui que Dieu a créé les cieux, par lui qu'il a enfermé la mer dans ses limites, c'est lui dont tous les éléments cosmiques observent fidèlement les lois mystérieuses. Lui de qui le soleil a reçu la règle qu'il doit observer dans ses cours journalières, etc. etc. Donc autrement dit, on voit très bien dès le départ que cet auteur reprend la théorie, la théologie de saint Paul et de saint Jean, à savoir que celui qui a annoncé l'évangile n'est pas un prophète, il n'est pas une sorte de divinité subordonnée, un ange ou je ne sais quoi, mais il est le Logos lui-même. Voilà. Et qui est supérieur à tout ce que les païens considèrent comme étant le plus élevé, hein, puisque le soleil, c'est une divinité pour les païens, la lune aussi, les astres aussi, toute l'armée des cieux, etc., etc. Voilà. Autrement dit, vous avez dans cet auteur déjà une réponse à l'avance aux idées de Arius, hein, de l'arianisme qui fera tant de mal. Voilà. Il l'a envoyé, vous voyez, comme le Dieu qu'il était, il l'a envoyé comme il convenait qu'il le fût pour les hommes, pour les sauver par la persuasion, non par la violence. Il n'y a pas de violence en Dieu. Vous vous souvenez que c'est exactement ce qu'avait dit Ratzinger à Ratisbonne, que le lendemain même, des musulmans assassinaient des chrétiens parce que la discussion opposait à un empereur byzantin qui reprenait cette idée, il n'y a pas de violence en Dieu, alors qu'il s'opposait à des sages persans. Voilà, il l'a envoyé pour nous appeler à lui, non pour nous accuser. Il l'a envoyé parce qu'il nous aimait, non pour nous juger. Un jour viendra où il l'enverra pour juger, et qui alors soutiendra son avènement? Alors là, il manque un petit bout.
Le poisson qui a effacé le...
Ouais, c'est le poisson qui a dû effacer le texte. Et puis, il y a l'idée quand même qu'on retrouvera partout chez tous les apologistes ou apologètes, qui est quand même donc fondé quand même au moins statistiquement sur une vérité, c'est « Ne vois-tu pas que plus on fait de martyrs, plus les chrétiens se multiplient par ailleurs. De tels exploits ne peuvent pas passer pour l'œuvre de l'homme. Ils sont les effets de la puissance de Dieu. Ils sont la preuve manifeste de son avènement. » Alors après, il est voyez le dialogue interreligieux, à moins d'accepter les vanités, les sottises de ces beaux parleurs de philosophes. Ils les ont enseignés que Dieu c'est le feu, ils appellent Dieu ce feu auquel ils sont destinés. Pour d'autres c'est l'eau, quelque autre des éléments créés par Dieu. Donc là vous avez en gros les présocratiques. Hein. Cependant, si l'une de ces doctrines était recevable, chacune des autres créatures pourrait au même titre être proclamée Dieu. Mais tout cela n'est que fable et mensonge de ces charlatans. Donc c'est vraiment l'idée que Dieu, on ne peut pas le connaître, par pleinement le connaître, et il faut qu'il se révèle pour qu'il puisse être connu. Alors vous avez un peu la suite. Donc, vous voyez son enfant bien-aimé, en grec c'est païs, hein, c'est l'enfant qui est en même temps le serviteur. Et alors, il explique pourquoi, finalement, le christianisme arrive si tardivement. Dieu avait donc déjà tout disposé en lui-même avec son enfant, mais jusqu'à ces derniers temps, il a souffert que nous nous laissions emporter à notre gré par des mouvements désordonnés, séduits par les voluptés et les passions, nullement parce qu'il éprouvait un malin plaisir à nous voir pécher, seulement il tolérait, non qu'il l'approuvât, ce règne de l'iniquité. Bien au contraire, il préparait le règne actuel de la justice, afin que, ayant bien prouvé dans cette première phase que nos propres œuvres nous rendaient indignes de la vie, nous en devenions maintenant dignes par l'effet de la bonté divine, et que nous étant montrés incapables d'accéder par nous-mêmes au royaume de Dieu, la puissance de Dieu nous en rende maintenant capables. Donc c'est toute l'idée d'histoire du salut, hein, toute l'idée de pédagogie que développe saint Paul dans ses épîtres, en disant que saint Pierre aussi, Dieu a qui parle du temps de la patience de Dieu. Saint Paul en parle aussi dans l'épître aux Romains. C'est-à-dire pour que nous soyons convaincus que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, que nous ayons fait sans cesse l'expérience de nos échecs, pour être disposés enfin à recevoir la solution. Vous avez ça dans cette idée de pédagogie, elle se retrouve dans tous les grands théologiens de cette période, hein, saint Irénée, on le verra beaucoup, et finalement dans l'Ancien Testament, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi on n'est pas marcionnite aussi, pourquoi on n'a pas renvoyé l'Ancien Testament comme étant une fausse religion, ou une religion falsifiée, comme font les musulmans vis-à-vis des autres. Le palimpseste de l'autre abruti, Emmanuel. Pourquoi on ne l'a pas renvoyé l'Ancien Testament? Parce que ça fait partie justement de la pédagogie divine. Hein, Et alors, ce qui est intéressant en matière d'anthropologie, c'est qu'on n'est pas du tout dans une anthropologie individualiste, parce que ça n'aurait aucun sens si on se dit, finalement, on a sacrifié toutes les générations précédentes pour avoir enfin la dernière génération qui se dispose à recevoir la grâce divine, hein, et que les autres,
J'ai une question. Pourquoi alors ils ne présentent pas le juif comme étant partie prenante de cette pédagogie?
Il a l'air un peu... Parce qu'il est un peu polémique quand même. C'est parce que c'est à cause de cette... C'est un peu de cette polémique. Mais on va voir là, dans la suite. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'il y a une conception corporative de l'humanité. Et ça, c'est certainement une dimension qu'on a beaucoup perdue, nous. Parce que, l'air de rien, on est quand même très tributaire des temps modernes, du cartésianisme et tout ça. Et, autrement dit, on fait passer l'individu avant la communauté. Or, je vous rappelle que notre Seigneur n'a pas dit qu'on est... il n'a pas comparé son Église à un tas de sable avec des petits grains disjoints, mais il l'a comparé à un corps où chacun est... d'une certaine manière, dans l'autre, hein, où chaque membre est interdépendant des autres. Donc, c'est, mystérieusement, il faut se dire... Vous voyez, c'est le dogme de la communion des saints qui nous sauve là-dedans. C'est peut-être la dernière génération, celle qui sera laissée faire, qui, parce qu'elle se sera laissée faire, va pouvoir faire rejaillir des grâces sur les générations qui, elles, ont été à l'école, si on peut dire, qui étaient encore sous le pédagogue, comme dit saint Paul. Alors, vous voyez que c'est très différent de la manière dont, par exemple, les totalitarismes modernes, eux, ils auraient plutôt tendance à sacrifier les générations présentes au profit d'une génération qui connaîtrait le bonheur sans tâche, quoi. Sauf que évidemment, il n'y a pas de corporéité d'une humanité marxiste, national-socialiste ou je ne sais quoi. Il n'y a que des individus dans ce cas-là. Il n'y a que l'Église qui peut se permettre de sacrifier des générations, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, tout est lié. Hein, toutes les générations ne font qu'un dans le Christ. Donc, alors quand je dis sacrifier, c'est mystérieux, hein, mais c'est sûr que le juif du temps de Moïse, il en savait moins que le juif du temps de Jésus. Hein. Enfin, surtout le juif du siècle d'après Jésus, qui avait pu entendre les apôtres lui annoncer l'évangile. Mais nous, encore, on est mieux placés, hein. Ça, c'est évident. Donc aussi, parce qu'on a plus reçu, on a certainement plus de responsabilités, hein. C'est certain.